Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par Bernard de Cotigny.
On célèbre ces jours-ci les 500 ans de la naissance de Saint François Xavier, jésuite et missionnaire de l'Asie, l'occasion pour nous de parler des catholiques japonais, une minorité paisible et respectée. Les Kurdes de Turquie refont parler d'eux au-delà de la reconnaissance de leur langue et de leur culture. Ils revendiquent toujours des droits politiques et administratifs. Depuis toujours, Ankara voit en eux une menace. Le cinéma africain, invité de nombreux festivals, peine en fait à exister, faute de moyens souvent, même pour le conserver. Être envoyé par le Christ dans le monde entier. François se destinait à une grande carrière ecclésiastique lorsqu'Ignace de Loyola le rencontra à Paris ainsi que Pierre Favre. Ils étaient tous étudiants dans les années 1530. Avec d'autres, ils sont à l'origine de la Compagnie de Jésus qui sera fondée à Rome en 1540. François partit peu de temps après en mission. Il parcourut l'Inde, les Moluques et le Japon. Il est le missionnaire par excellence et il mourra en face de la Chine qu'il rêvait tant de découvrir et d'aimer. Le Japon, il y arrive le 15 août 1549, une terre pratiquement inconnue. Mais qu'en est-il du christianisme au Japon aujourd'hui? Nous en parlons avec le père Olivier Chegaray, aumônier des jeunes universitaires de Tokyo. Et tout d'abord des chiffres pour avoir les pieds sur terre.
Oui, c'est une toute petite minorité, puisque enfin, si on veut citer des chiffres, ça fait 400 000 catholiques japonais, donc 0,4% je pense. Seulement, on a un nouveau phénomène au Japon, c'est qu'on a beaucoup d'immigrés, surtout d'Amérique latine et des Philippines, donc qui sont des pays catholiques. Quand on fait le total, on approche du million. Et la plupart sont d'ailleurs des descendants de Japonais qui reviennent au Japon après avoir passé des dizaines d'années en Amérique latine et se sont souvent convertis là-bas.
Alors vous dites que c'est une nouvelle réalité, elle remonte
oui.
À quand?
Disons qu'elle s'est accélérée depuis 10 ans au moins, quoi, 10-15 ans. Donc beaucoup de catholiques sont des immigrés, viennent dans les paroisses, mais ce ne sont pas des Japonais, enfin, ou alors ce sont des descendants de Japonais naturalisés ailleurs. C'est une problématique en ce sens que les Japonais de souche se sentent un peu écrasés par l'afflux de ces immigrés. Et souvent, il y a des paroisses où il y a plus d'immigrés catholiques que de Japonais eux-mêmes. Ils ont quelquefois le sentiment de ne plus être chez eux, en quelque sorte, quoi. Donc, ça crée forcément des frictions. Mais en même temps, c'est une chance si vraiment on a un regard missionnaire sur cette réalité, c'est-à-dire si on aide ces gens-là à bien s'intégrer, si on aide aussi les Japonais à les accepter, ça fait une force dynamique missionnaire très importante pour l'Église du Japon.
Alors l'on sait que cette Église du Japon a été pendant plusieurs siècles persécutée, anéantie même. Finalement, quand des missionnaires européens sont revenus au Japon, ils ont retrouvé cette Église japonaise des catacombes, je dirais pratiquement.
Ça, oui.
Aujourd'hui, alors que l'on célèbre les 500 ans de la naissance de Saint François Xavier, qu'est-ce que l'Église a encore à proposer finalement au Japon? Et est-ce que les Japonais finalement y trouvent leur compte?
D'abord, ce que vous avez dit au début est tout à fait vrai. C'est à l'ère Meiji, c'est-à-dire fin 19e siècle, l'Église a redémarré grâce à la découverte de vieux chrétiens quoi, qui ont résisté pendant 230 ans, qui ont continué même sans prêtre. Alors la mission a redémarré à l'ère Meiji, c'est-à-dire en 1865 par ici, et disons qu'il y a eu un boom de conversion un peu à l'époque parce que les Japonais découvraient l'Europe, l'Occident après 200 ans de fermeture. Ensuite, il y a eu une certaine stagnation. Maintenant, est-ce que vraiment l'Église catholique apporte quelque chose de nouveau au Japon, quelque chose qui est désiré par les Japonais? Ça, c'est une question qu'on se pose évidemment tous les jours. Disons que c'est pas évident pour le Japonais ordinaire qui d'abord ne connaît pas grand-chose au christianisme, qui en a une image souvent très très idéaliste, et la religion chrétienne pour eux c'est une religion sérieuse, certainement importante qu'il faut connaître, mais alors qui qui est tellement élevé, tellement idéal que ça paraît tout à fait en dehors de ses propres forces de l'atteindre en quelque sorte. Je pense que l'Église catholique répond quand même à des besoins, ça, si on creuse un peu, enfin des besoins très très profonds de spirituel, car le spirituel n'existe pratiquement pas au Japon. Enfin, les autres religions sont très très peu vivantes, très peu actives. Elles sont très peu mobilisatrices des Japonais. Elles aussi, le langage du bouddhisme ou du shintoïsme ne dit plus rien aux Japonais. Alors la plupart des Japonais se disent sans religion, mais il y a certainement une attente, pas toujours évidente, pas toujours consciente. Il y a une attente, je pense, d'un message spirituel fort qui puisse aider les gens à retrouver de l'espoir, à retrouver un sens à leur vie.
Est-ce qu'on peut dire justement que pour l'Église japonaise, dès lors, il est peut-être plus important de continuer à annoncer l'Évangile que de travailler, par exemple, dans le domaine de type social, par exemple?
Effectivement, votre question est très débattue parmi nous au Japon, parmi les prêtres, les laïcs. Il y a actuellement, surtout parmi les jeunes, moi je m'occupe spécialement des jeunes, un très très fort courant demande de spirituel plutôt que de social. D'un autre côté, les œuvres missionnaires, enfin, à travers les écoles, à travers les hôpitaux, l'approche des plus pauvres, c'est un témoignage qui parle beaucoup, beaucoup aux Japonais et qui nous sommes un peu jugés aussi là-dessus. Donc, je pense que les deux sont importants, répondre à la demande spirituelle, mais aussi continuer à porter ce témoignage à travers l'attention aux plus défavorisés. Je pense que les deux sont très très importantes. Mais il faut bien avouer que l'Église du Japon actuellement a plutôt opté pour l'option spirituelle que pour l'option sociale actuellement.
L'option sociale étant d'autant plus voyante quand elle existe que la société japonaise est quand même une société de la performance et que finalement on est vite laissé pour compte à partir du moment où cette société est très égoïste aussi, non?
Absolument. Vivre au Japon, évidemment, le Japon, pour les Français, c'est peut-être un pays riche, très beau, très folklorique d'une certaine façon, mais vivre au Japon pour un Japonais ordinaire, un travailleur, c'est, il n'y a pas doute, c'est très très dur. Et la société ici est très rigide, elle est très verticale. Les gens sont très embrigadés, ils doivent travailler énormément, et donc il y a le stress social qui est très important. Tout ça, c'est au dépend de la vie familiale, c'est au dépend aussi de la vie de loisir. Il n'y a pratiquement pas de vie de loisir au Japon. Les gens travaillent un peu comme des bêtes de somme. Je crois que l'Église là, a un message qui peut être écouté par les gens, parce que les gens attendent une parole. Quel est le sens de la vie finalement? Pourquoi travailler? Pourquoi fonder une famille?
Comment finalement les catholiques japonais sont vus par le reste de la société? Ont-ils des difficultés par rapport à la grande majorité des autres japonais?
Ils sont plutôt bien considérés, enfin considérés comme des gens sérieux. Les gens font souvent des comparaisons avec les autres religions qui... Malheureusement, c'est très malheureux. Il y a très peu de pratiques, très peu de contenu. Alors les gens regardent avec beaucoup de bienveillance l'Église catholique, aimeraient peut-être s'en approcher, mais comme je disais tout à l'heure, ça leur paraît une religion extrêmement difficile. D'abord, terriblement intellectuelle, c'est-à-dire c'est avec une doctrine très pesante. Ça ne va pas du tout dans l'âme japonaise. L'image est très bonne en sens que les gens savent que les chrétiens font tout ce qu'ils peuvent pour aimer les autres, pour les aider aussi. Il y a quand même toutes les œuvres sociales de l'Église au Japon qui sont connues des gens et qui portent un grand témoignage. Le seul défaut un peu des chrétiens japonais, je dirais peut-être, c'est d'être souvent trop trop sérieux. C'est un peu paradoxal, mais trop trop japonais. Et évidemment, c'est difficile à expliquer, mais enfin, peut-être ce manque de largeur, de tolérance aussi, vis-à-vis des autres religions, par exemple. Peut-être il y a peu de joie. Enfin, ici, c'est croire, aller à l'église, tout devient très sérieux, trop sérieux, je dirais. C'est peut-être ce sens de l'humour qui manque un petit peu. Donc les gens se disent, les chrétiens c'est bien, mais moi je peux pas, c'est pas fait pour moi. Alors c'est ça qui retient la plupart des Japonais de faire le pas vers le christianisme. Et ils se sentent mal à l'aise finalement dans une religion qu'ils considèrent aussi comme trop occidentale et surtout trop intellectuelle.
Je suppose que la mission est différente aujourd'hui qu'elle ne l'était au temps de Saint François-Xavier et qu'on évangélise différemment.
Absolument, oui. Pour moi, c'est d'abord quand même un témoignage de vie. Ça, je crois que ça, pour les gens qui sont autour, c'est ça qui parle le plus que des discours. Nous essayons de vivre vraiment avec les gens, de répondre à leurs besoins, de cheminer avec eux. Et quand le moment, je crois que il y a un moment où on peut leur parler du Christ, parce qu'on a cheminé avec eux.
Il s'agit des affrontements les plus graves depuis une dizaine d'années en Turquie. Les Kurdes sont descendus dans la rue et des émeutes non seulement dans leur bastion du sud-est mais aussi à Istanbul ont ramené à la une un conflit non résolu. Mais l'on pouvait s'y attendre car les violences connaissent une escalade depuis juin 2004, date à laquelle le PKK, organisation séparatiste kurde illégale, a mis un terme au cessez-le-feu qu'il avait décrété et observé depuis 5 ans. Depuis 1984, rappelons que les affrontements entre forces gouvernementales et rebelles du PKK ont fait quelque 37 000 morts, ravagé l'économie du Sud-Est et entraîné le déplacement de millions de personnes. Dans un souci de rapprochement avec l'Union européenne, dont la Turquie veut devenir membre, le gouvernement a fait quelques concessions, c'est vrai, à la minorité kurde, estimée à plus de 12 millions de personnes sur une population de 72 millions. Ankara a autorisé ainsi la diffusion limitée de programmes en langue kurde par les télévisions et les radios, mais la constitution interdit toujours l'utilisation d'une autre langue que le turc dans les établissements publics. À n'en pas douter, socialement et économiquement, les Kurdes de Turquie se perçoivent et sont perçus comme des citoyens de seconde zone. David Milia en parle avec Rucher Verdi de l'Institut kurde de Paris.
C'est vraiment l'accumulation de frustrations du côté évidemment des Kurdes et de provocations du côté donc des autorités turques. Malheureusement, nous aurions espéré que les autorités turques appellent au calme comme ont fait les autorités donc locales kurdes. Mais lors de l'intervention du Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, nous n'avons entendu que des menaces. Il a même dit que les femmes et les enfants pouvaient être la cible première si ils étaient instrumentalisés.
Oui, parce que les autorités disent que 80% des manifestants ont moins de 18 ans. Est-ce que ça on peut parler d'une nouvelle génération de contestataires, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de telles émeutes, de telles violences dans la région?
Effectivement, les perspectives d'adhésion à l'Union européenne avaient quelque peu suspendu les aspirations kurdes, parce que les Kurdes disaient qu'il fallait donner un petit peu de temps aux autorités turques pour qu'ils puissent mettre en œuvre les différentes réformes qui ont été promises. Malheureusement, l'application de ces réformes a été très peu suivi, il n'y a pas eu franchement d'application directe sur le terrain. Il est vrai qu'il y a énormément de jeunes qui sont en train de manifester, mais ça s'explique. L'Association turque des droits de l'homme parle de 3 millions de déplacés internes pour la plupart des Kurdes. Donc ce qui fait que ces jeunes qui se trouvent à Diyarbakir ou dans des autres grandes métropoles du Kurdistan de Turquie se trouvent très souvent sans emploi, très souvent dans des conditions de vie très précaires. Ils voient aussi que l'État, malgré les promesses, ne fait absolument rien, non seulement au niveau du développement économique, mais également au niveau de leur aspiration démocratique.
Quelles sont justement les aspirations des Kurdes aujourd'hui en Turquie?
C'est des aspirations qui demeurent très très modérées. Des droits culturels, ils veulent des droits également politiques, puisque le seuil national de 10% les empêche d'être représentés au Parlement turc. Aujourd'hui, ils ne se sentent absolument pas représentés. C'est pour ça que l'Union européenne devient en fait le parti d'opposition pour les Kurdes. C'est pour ça que 90% des Kurdes sont pro-européens, parce qu'ils ne voient leur aspiration traduite que dans les réformes demandées par l'Union européenne. Et également à ce que leur liberté fondamentale puisse être reconnue et puisse être traduite dans les faits, de facto, et pas simplement formellement dans les textes.
Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire comme mesure ?
Bah écoutez, l'enseignement par exemple de la langue kurde, ils l'ont annoncé, évidemment dans un premier parti, nous-mêmes nous avons salué ces réformes, mais c'est resté en fait des mesurettes, puisque aujourd'hui il n'y a quasiment plus de cours de langue kurde. On avait autorisé en fait l'enseignement privé, mais étant donné qu'il est toujours interdit de parler kurde dans la fonction publique et donc dans tout ce qui est service public, ça ne servait absolument à rien d'avoir un diplôme en kurde. C'est la même chose pour la diffusion de la langue kurde par voie donc de la radio et de la télévision. Aujourd'hui, on leur autorise à diffuser 4 à 5 heures de kurde sur les chaînes locales privées. Mais il est interdit de diffuser des dessins animés, il est interdit de porter des costumes kurdes, il est interdit de donner des cours de langue kurde par voie donc de ces médias. Donc les Kurdes se trouvent de plus en plus frustrés et ils voient que ce ne sont que des mesurettes.
La Turquie fait face à de vieux démons. La question kurde n'est pas nouvelle. Vous avez l'impression toutefois que depuis 10 ans, ces émeutes sont le signe d'un retour en arrière.
De toute façon, on a l'impression que très souvent, les autorités turques font un petit peu la marche des janissaires. Donc c'est deux pas en avant et un pas en arrière. La seule solution pour la résolution de la question kurde reste une solution politique. On ne peut absolument pas cautionner la solution militaire qui est aujourd'hui déployée dans cette région.
Le PKK, il y a quelques années, a mis fin aussi à une trêve qu'il observait depuis 5 ans. Pourquoi exactement ? Est-ce que là aussi, ça ne donne pas un peu du grain à moudre aux autorités turques ?
Nous le regrettons. C'est vrai que depuis 2004, le cessez-le-feu a été... le PKK a mis fin au cessez-le-feu qu'il avait déclaré d'ailleurs d'une manière unilatérale. Mais c'est vrai que normalement, les autorités turques auraient dû décréter une amnistie générale pour que justement ces combattants kurdes puissent rentrer chez eux. Et il faut aussi que des conditions politiques puissent être mises sur pied pour que les Kurdes puissent se faire entendre au niveau politique. Aujourd'hui, ils ne trouvent que la rue pour se faire entendre.
On ne compte plus les festivals qui invitent et mettent à l'affiche le cinéma africain. Ainsi, fin mars à Milan, le 16e festival du cinéma africain d'Asie et d'Amérique latine lui a fait la part belle. L'occasion pour notre collègue capverdienne Dulce Arroyo de rencontrer Ardiouma Soma, directeur de la Cinémathèque africaine à Ouagadougou au Burkina Faso. Car s'il est difficile aujourd'hui de produire des films en Afrique, il est tout aussi difficile de conserver le patrimoine cinématographique africain.
Dans la Cinémathèque africaine... Elle existe depuis 1989, mais c'est une longue histoire parce que depuis 1966 déjà, pendant le Festival des Arts Nègres, le premier Festival des Arts Nègres qui a eu lieu à Dakar au Sénégal, les hommes de culture, les cinéastes africains, avaient souhaité que les images qui tournaient puissent être déposées quelque part en Afrique. Et en 1966 aussi, vous savez que le festival de Carthage a été créé en Tunisie. Et en 1970, il y a eu toujours en Tunisie la création de la Fédération panafricaine des cinéastes. Donc les cinéastes africains avaient décidé de se regrouper pour discuter de leurs problèmes. Et en 1969, un an avant la création de la FEPACI, il y a eu la naissance du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Donc ça fait autant de lieux de rencontre des hommes de culture et des cinéastes africains qui ne manquaient pas l'occasion d'exiger qu'il y ait quelque part des archives sur le travail qu'ils font. Mais il n'y avait pas de moyens ou il n'y avait pas en tout cas une institution qui s'était décidée à prendre en charge la réalisation de ce vœu donc des cinéastes. C'est ainsi que quand le FESPACO au Burkina Faso préparait son 20e anniversaire en 1989, un an avant, et le festival a lancé un appel aux cinéastes grâce à Gaston Kabore, qui était à l'époque le secrétaire général de la FEPACI, qui a écrit donc à tous ses collègues cinéastes pour leur dire qu'à l'occasion du FESPACO, du 20e anniversaire du FESPACO, le FESPACO souhaitait donner corps à leur souhait, à leur projet de création d'une archive de films en Afrique. Il y a beaucoup de cinéastes qui ont répondu à l'appel et grâce à cet appel-là, on a pu tirer 40 copies de films en 1989. C'est ça qui a constitué les premières collections de cette cinémathèque africaine. Mais je dois dire qu'on n'est pas parti de rien parce qu'au Burkina Faso, il existait déjà une cinémathèque qui conservait tous les films qui avaient été tournés dès la fin des années 50 et puis tout le début des années 60. Beaucoup de films éducatifs sur la santé, sur l'agriculture, sur l'élevage, pour l'éducation, l'information des populations. Parce que vous savez, au Burkina Faso, il y a plus de 60 langues. Donc pour pouvoir toucher facilement l'ensemble des personnes, les autorités de l'État voltaïque à l'époque qui est Burkina Faso maintenant, avaient jugé nécessaire de passer par l'audiovisuel. C'est plus facile pour contourner donc la question des langues. Donc il y a plein de films qui ont été tournés et qui étaient archivés donc dans une cinémathèque nationale qui faisait aussi le travail de diffusion. Donc on est parti donc de cette archive-là pour bâtir la cinémathèque africaine.
Et donc vous êtes parti de tout ce patrimoine-là, plus les 40 films que les cinéastes ont donnés à l'occasion du 20e anniversaire. Actuellement, à quel point êtes-vous, du point de vue quantitatif?
Actuellement, nous sommes à environ 1500 copies de films qui sont assez représentatifs, en tout cas, de toutes les parties de l'Afrique. Nous avons des films du Maghreb, de l'Afrique occidentale, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe aussi. Mais je dois avouer que nous sommes encore très très loin de collecter l'ensemble de la cinématographie africaine. Donc il y a beaucoup de films qu'on n'a pas pu encore collecter parce que ça nécessite énormément d'argent. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est que le cinéma africain, il est peut-être récent parce que les Africains eux-mêmes ont commencé à faire des films peut-être à partir des années 50, mais le cinéma africain aussi a d'énormes problèmes aujourd'hui d'archivage, parce qu'on a l'impression que c'est un cinéma qui est jeune, mais il y a des films qui ont été faits peut-être pendant les années 80, mais qui aujourd'hui on ne peut plus les retrouver. Donc ce qui nécessite un énorme travail de collecte de toute cette filmographie-là, et pour les conserver pour les générations futures. D'autant plus que le cinéma africain a un problème particulier, c'est que la production, la réalisation des films se font en Afrique, mais toute la post-production, montage, labo, se font hors de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous savons que beaucoup de laboratoires ont fermé ou ont fusionné, et il y a du mal aujourd'hui à retrouver un certain nombre de films africains parce qu'on ne sait plus dans quel labo ils se trouvent, parce que le laboratoire qui a traité le film après sa production n'existe plus.
Maintenant, une question hors de la cinémathèque. Donc, nous sommes ici au Festival de cinéma africain, maintenant de l'Asie et de l'Amérique latine à Milan. Et si on dit qu'il y a crise du cinéma en Afrique, est-ce que vous, dans votre expérience là-bas, au centre du cœur du Festival de cinéma africain en Afrique, vous êtes d'accord avec ça?
Tout simplement, je reconnais que le cinéma africain vit une certaine évolution, une nouvelle situation, je voudrais dire. Parce que vous savez que le cinéma africain au sud du Sahara, entre le Maghreb et puis l'Afrique du Sud, était essentiellement soutenu par un certain nombre de bailleurs de fonds que tout le monde connaît en Occident. Et aujourd'hui, peut-être que ces bailleurs de fonds ne mettent plus tellement à disposition autant d'argent qu'avant, ou en tout cas c'est devenu un peu plus difficile, ce qui fait qu'aujourd'hui pour financer un long métrage, un film long métrage de fiction en Afrique, c'est pas évident, c'est très difficile. Donc surtout pour les jeunes cinéastes aujourd'hui, c'est très très difficile. Donc on est en train d'assister à un nouveau phénomène qui est que, parce que vous savez, les créateurs, quelles que soient les situations, ils vont toujours s'exprimer, ils vont réagir. Donc nous assistons à une situation où les jeunes cinéastes se sont rabattus sur la vidéo numérique. Donc contrairement à auparavant où on faisait peut-être dans les différents pays 1, 2, 3, 4 longs métrages maximum par an, aujourd'hui il y a des pays où il y a 10 longs métrages par an. Mais c'est vrai que ces 10 longs métrages, on ne les verra pas à Milan, on ne les verra pas à Cannes, etc. Parce que c'est des films d'un certain niveau qui n'est pas forcément bien apprécié par les critiques de cinéma ou par les organisateurs de festivals. Mais c'est une dynamique qui est là, qu'il faut prendre en compte. C'est des jeunes créateurs qui ont envie de dire des choses, qui ont envie de faire des choses. Il faut prendre en compte, il faut peut-être aider à la formation, je ne sais pas, mais c'est une dynamique qui est là.
Fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine.